Eh bien, rebonjour à tous, bienvenue dans cette émission Quartier Libre où c'est encore la place pour un conteur, comme chaque jour pendant ces 2 semaines pour eh bien le moment des 10e rencontres de la parole organisée par la médiathèque départementale des Alpes de Haute-Provence et sa directrice Christiane Belleuil qui accompagne chaque jour ses fidèles conteurs et conteuses. Bonjour Christiane.
Bonjour Odile.
Et aujourd'hui donc on va faire la connaissance, enfin moi en tout cas, avec Patrick Ewen. Bonjour.
Bonjour.
Alors, vous êtes conteur, bien sûr, mais pas seulement.
Non, pas seulement. En fait, au départ, ce qui se passe, c'est que je suis chanteur-musicien. Je suis chanteur-musicien, seulement, comme j'ai toujours été très bavard, voilà, je parle beaucoup, donc on m'a collé chez les conteurs. En fait, ce qui se passe, c'est qu'au départ, je chantais des ballades d'Irlande, d'Écosse et de Bretagne. Et puis comme les gens ne comprenaient rien de ce qui se passait dans la chanson, il fallait raconter un petit peu le thème de la chanson. Et à force de raconter, ben finalement, je racontais plus que je ne chantais. Et un jour, on m'a bombardé conteur. Et ma foi, ça me convient très bien.
Il y a combien de temps alors, conteur ?
Je ne saurais pas dire. Je sais que c'était à Chevilly-la-Rue, qui est la Mecque du conte un peu, là. Et donc, j'avais fait un spectacle invité par les Bretons de Chevilly-la-Rue, au Mille Club, voilà, les petits Mille Club, là, sympa. Et le président avait demandé à Michel Jolivet, qui est le directeur de la Maison de la Culture, de venir. Michel avait dit « Oh ben non, parce que j'ai des trucs à faire ». Qu'on n'a pas envie de faire un truc, on a des trucs à faire. C'est ça. Et l'autre avait dit, ben, si tu viens pas, on dira aux Bretons de boycotter tes spectacles à la Maison de la Culture. Alors Michel avait ri, puis il avait dit, bon, je viendrai, mais 10 minutes, parce que j'ai pas de temps. Ok, bon. Et le soir dit, il était là au début, puis à la fin, il était encore là. Bon. Puis là, il m'a dit, ben voilà, il faut que tu viennes au Festival de Contes. Je lui ai dit, oh, mais moi, je suis pas conteur, je suis chanteur, musicien. Il me dit, mais attends, combien de chansons t'as faites ? Je dis, bon, je ne sais pas, 10. Il dit, non, 4. Ah bon ? Et combien de temps dure le spectacle ? Je dis, je ne sais pas, 1 heure peut-être ? Il me dit, non, ça fait 2 heures. Alors, 4 chansons en 2 heures, tu vois, le reste du temps, t'as fait que parler. Donc, tu vas venir au Festival des Conteurs.
Excellent.
Et je lui dis, bon, d'accord, si tu me tords le bras, je viens. Voilà. Et me voilà conteur aujourd'hui. Et
effectivement, 4 chansons pour 2 heures de spectacle, il y avait quelque chose.
À moins que ce soit des chansons d'une demi-heure, mais bon.
Et vous n'aviez pas détecté ça, vous ?
Non, pas du tout. Non, je parlais, bon, voilà. Et puis, ceci dit, je suis ravi parce que ça m'a permis de découvrir un autre monde, le monde des conteurs qui est quand même assez étonnant, ou qui est différent du monde des musiciens. Dans le monde des conteurs, je crois que les gens se livrent beaucoup plus. Et très vite, j'ai tissé des liens d'amitié avec pas mal de gens. Bon, j'ai eu la chance de connaître aussi des aînés, on va dire, des grands conteurs aujourd'hui disparus, comme Yvan Audouard, Claude Chabrol ou Pierre-Jacques Esselias en Bretagne. Voilà, et c'est des gens que j'ai beaucoup appréciés, quoi. Voilà.
Alors, vous êtes chanteur, musicien, vous jouez énormément d'instruments, violon, on en aura un extrait
si vous voulez,
à l'heure, l'harmonica, guitare, banjo, mandoline et accordéon.
J'ai pas tout pris, là, pour
vous. Vous n'avez pas tout pris.
Non, je suis venu en train, donc j'avais pas trop de...
Et vous êtes né en Afrique du Nord, mais breton quand même.
Ouais, c'était marrant parce que... une fois, j'avais une interview avec une journaliste comme ça, par téléphone. Mmh. Et alors, à un moment, elle me dit, mais vous avez vraiment 80 ans hein? Je dis, c'était il y a quoi, 8-9 ans de ça. Bon, j'en ai 68 aujourd'hui, donc ça doit faire 8 ans. Je dis non, pas tout à fait encore. Mais bon, parce qu'elle avait lu dans Wikipédia, Patrick Ewen né à Benghazi en Libye en 1928.
Ah oui.
Donc, j'ai dit non, 48. Bon, et puis en Algérie, oui, dans cette belle ville de Beaune, puisque mon père était en déplacement là-bas, était dans la gendarmerie mobile. Donc, ils étaient mobiles, donc ils allaient en Algérie pour, comme on appelait ça, le maintien de l'ordre. Ça n'a pas trop réussi, je crois. Mais bon.
Et vous avez chanté essentiellement des reprises de Bob Dylan, Graham Allwright et tout
ça. Ah ben, au début, oui, quand je chantais, ben, j'ai fait un long apprentissage, ce qu'on appelait beatnik. Mm-hmm. Donc, c'était pas les hippies. Hein. Les hippies, c'était les beatniks feignants. Bon. Et c'était pour moquer d'eux. Les beatniks, non, c'est ces gens qui voyageaient, le pouce en l'air, les émules de Woody Guthrie et Jack Kerouac. Mm-hmm. Bon. Et voilà, donc je chantais des ballades de Bob Dylan, Donovan, Pete Seeger, Woody Guthrie et, bien sûr, notre maître à tous en France, Graham Allwright, quoi, mm-hmm. qui était quand même le jour où on a découvert Graham Allwright. Et à l'époque, je me souviens, il avait une quarantaine d'années quand il a commencé à chanter vraiment.
Il chante toujours, hein.
Oh, oui, mm-hmm. oui, il a 88 ans, je crois.
Ah, oui. mm-hmm.
La voix est toujours impeccable, il a une... Puis c'est un diesel, quoi, parce mmh. qu'au début, ça démarre, allez, touf, 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 et puis alors, trois heures après, il est toujours là. Et donc, voilà mes maîtres, hein, en quelque sorte, et puis, et donc j'ai commencé à chanter ça, et puis plus tard, après, quand j'ai commencé vraiment à chanter, je chantais des ballades d'Irlande et d'Écosse, et de Bretagne après, quoi.
Et vous chantez en français, en anglais et en breton.
Oui, voilà, c'est ça. Bon, maintenant, plus en français et en breton. Bon, parce que ben, en anglais, c'est vrai que les gens écoutent beaucoup d'anglais, mais très peu le comprennent vraiment. Donc, mm-hmm. En français et en breton. Déjà en breton, un peu, pas trop. Là où il y a des refrains, comme ça. Et puis on explique avant ce qui se passe dans la chanson, comme ça. Tout le monde embarque avec la chanson.
Donc vous êtes musicien-conteur, mais aussi vous faites partie d'un trio, vous formez un trio depuis de nombreuses années aussi ?
Nombreuses, bah ça commence à être nombreux, parce que moi j'avais rêvé un truc une fois avec le film « Oh Brother ». Ouais, avec mmh. George Clooney, là, où on voit les trois avec leur salopette américaine, là, qui chantaient. Et j'avais rêvé à la suite de ça qu'avec mes deux vieux amis, Gérard Delahaye et Mélène Favennec, on avait formé un trio qui s'appelait, je sais plus, Grand-père Autobus. Parce qu'il y avait un groupe de folk où était d'ailleurs Michel Hindenock, conteur également, un groupe qui s'appelait Grand-mère Funibus Folk. Et il a joué là-dedans, lui. Et moi, dans mon truc, tout ça se mélangeait. C'était grand-père autobus, voilà, folk. Et j'avais dit ça aux autres. J'ai dit, moi, j'arrivais à un truc comme ça. Et si on faisait un groupe juste pour rigoler, comme ça? Et les autres ont embarqué. Oh ouais, ça serait marrant. Et donc ça, c'était en 99. Mm-hmm. Et en 99, on a fait un concert. Après, l'année d'après, on a dû en faire 4-5. Et maintenant, on est rendu à en faire une trentaine dans l'année. Surtout dans la région... ouest, nord-ouest et du côté de la Loire, par là, quoi. La Basse-Loire, on va dire. Mm-hmm. Ou la Basse-Loire, ouais, c'est ça, parce que la Haute-Loire, c'est... Ouais.
Est-ce qu'on écoute un morceau du trio ?
Ben ouais, là, on peut écouter cette chanson qui s'appelle, je crois, c'est Lampedusa. Gérard avait écrit cette chanson il y a déjà pas mal de temps, bien avant qu'on ne parle vraiment de tous ces gens, ces pauvres malheureux qui essaient de traverser la mer vers un monde meilleur et ceux qui se noient. Et Gérard avait été frappé par ça. Il avait composé la chanson en 2006, je crois. Et elle avait été enregistrée et sortie en 2007. Voilà, et donc c'est cette chanson qu'on va entendre sur Lampedusa.
À tout de suite, Patrick Ewen.
Au large de la Sicile, ils sont plus de 100 sur un tout petit bateau. Ils ont traversé la mer jusqu'à la première île, et plus d'une et plus d'un y a laissé sa peau. À Lampedusa, ils sont arrivés 10 000. Ils ont bravé les vagues, ils ont bravé la peur. À Lampedusa, au large de la Sicile, prêt à mourir pour vivre un avenir meilleur. D'où viens-tu, mon frère?
D'où viens-tu, mon frère?
Je viens du désert.
Je viens du désert.
Et toi, mon ami?
Et toi, mon ami?
Je viens du Mali.
J'ai quitté ma mère.
J'ai quitté ma mère.
J'ai quitté ma terre.
J'ai quitté ma terre.
Il n'y a plus d'eau.
Il n'y a plus d'eau.
Et plus de boulot.
Et voilà maintenant tassé dans un camp.
À Lampedusa, il rêve de la grande ville.
Plus jamais, jamais faim et toujours de l'argent.
On leur avait dit là-bas la vie est facile.
Dans les cités merveilles, dans les cités du Nord.
On leur avait dit là-bas la vie est facile,
t'as qu'à tendre les mains et tu auras de l'or.
Sais-tu que là-bas,
sais-tu que là-bas,
il pleut, il fait froid,
il pleut, il fait froid.
Je sais, mais j'espère,
je sais, mais j'espère,
et les champs seront verts.
Est-ce que tu as peur?
Est-ce que tu as peur?
Bien sûr que j'ai peur.
Bien sûr que j'ai peur.
Mais j'aurai ailleurs.
Mais j'aurai ailleurs
un avenir meilleur.
À Lampedusa, au large de la Sicile,
ils dorment avec leurs rêves tout au fond de l'eau.
À Lampedusa, au large de la Sicile,
et d'autres par milliers arriveront bientôt.
Voilà, on vient d'écouter
Lampedusa,
Lampedusa,
au sud de la Sicile, qui est très proche de l'Égypte, je crois, ou de la Tunisie. C'est pas loin, en tout cas, ouais.
Donc Patrick Ewen avec votre trio EDF.
Voilà.
Donc c'est les initiales, j'imagine, de vos trois noms.
C'est ça, Ewen, Delahaye, Favennec.
Alors, vous êtes chanteur, musicien et conteur. Alors, on va en venir à comment vous êtes venu au conte. Donc, parce qu'on vous a trouvé très bavard et que quand vous chantiez quatre chansons, ça prenait 2 heures. Alors, après, comment vous êtes orienté vers le conte? Alors, quelles sont les histoires que vous avez aimé raconter?
Ce que j'ai aimé, c'est arrivé un peu par hasard. C'est-à-dire que, bon, j'avais des chansons et quand je suis arrivé dans ce qu'on appelle les monts d'Arrée, là où je vis en Bretagne. Les monts d'Arrée, c'est point culminant, Rortre et Dudon, 3870 décimètres, donc. Mmh. Eh bien, quand je suis arrivé là, voilà, j'ai rencontré les gens de ce pays et j'ai vécu pas mal d'aventures, des choses assez cocasses. Et donc, j'ai commencé à raconter ça en scène. Finalement, ce sont pas vraiment des contes, ce sont ce qu'on appellerait des chroniques, finalement, ou on dit aussi des récits de vie, maintenant. Et donc, j'ai commencé à raconter ça, et comme il y en avait un bon paquet, c'est devenu un spectacle que j'ai mis en forme en 1988, un spectacle qui s'appelle « À la lisière des trois pays et des deux mondes ». Les trois pays étant la Cornouaille, le Léon et le Trégor, qui sont les trois évêchés de l'ouest Bretagne, dans le Finistère, là. Et les deux mondes, ben, les deux mondes, celui dans lequel on vit, le monde du quotidien, bien sûr, et celui d'à côté, c'est le monde du rêve, en quelque sorte, voilà, où il est bon de se rendre pour reprendre des forces, et avant de retourner dans le quotidien, en quelque sorte, voilà. Ça a commencé comme ça. Et puis après, j'ai monté d'autres spectacles, dont un spectacle pour les enfants qui s'appelle La légende de Ronan de Kéradalan, dans lequel je faisais intervenir toutes les entités qu'on peut trouver dans l'univers breton, en quelque sorte. Dès qu'on passe les brumes, on arrive dans ce pays de notre imaginaire, justement, où on trouve, on va dire en quelque sorte, le château du roi Arthur. La reine Guenièvre, ainsi de suite, et puis Merlin l'Enchanteur, tout ça, mais avec tout ce qui accompagne ces personnages, par exemple, les trolls, les elfes, les korrigans qu'on a en Bretagne, et que ça permet de faire peur aux enfants, ce qui fait que les parents, après, doivent se lever à 2h du matin pour les consoler. Mais c'est ça qui forge aussi des caractères bien trempés. Voilà. Et donc, après, plus tard, j'ai monté d'autres spectacles, un qui s'appelle Récits barbares, où je mêle en quelque sorte le barbare de mon quotidien. Quand j'ai tué mon premier canard à la hache, ben, j'avais lu dans un bouquin qui s'appelle De mémoire indienne, un chaman indien qui s'appelle Cerf Boiteux, qui disait, ouais, vous les blancs, vous mangez de la viande, mais la viande que vous mangez, c'est de la viande sous cellophane. Vous n'êtes pas capable de tuer la bête pour la manger, de voir le sang couler, la souffrance de la bête. Vous les blancs, vous n'êtes pas capable de tuer. Je m'étais dit, ouais, c'est vrai, au fond, on est nul. Donc, comme j'avais des canards à l'époque et un coq rouge, je m'étais dit, je vais tuer les animaux moi-même. J'en ai tué un ou deux, je crois, et après j'ai baissé les bras parce que c'était trop difficile, vraiment. Là, on est mis vraiment face à la vie et à la suppression de la vie, voilà.
Et est-ce que vous êtes devenu végétarien pour le coup ou pas?
C'est ça pas que forcément. J'aurais dû faire, mais non,
pas forcément.
Non. Je mange pas énormément de viande, mais bon, quand je la mange, en fait, depuis ce temps-là, je pense toujours à la bête. Je suis comme les Indiens à dire. Pardon à la bête, merci de me donner ta viande. Voilà. Et donc, à partir de là, je glisse vers d'autres univers qu'on pourrait appeler mes possibles univers d'une vie passée, on va dire. Et donc là, je peux aborder des sujets comme la bataille de Clontarf en Irlande en 1014, avec dans le fracas des épées et des boucliers, ou alors une chasse sacrificielle dans les grandes forêts de la Grande-Bretagne à l'époque de la conquête romaine. Bon, ce sont des récits un peu violents, c'est vrai, mais épiques, quoi, épiques. Voilà. Et il n'y a pas longtemps, j'ai monté un dernier spectacle, alors, qui s'appelle « Si on ne fait pas la liaison, ça fait trop homme de terre pour être marin. » Puis avec la liaison, ça donne trop homme de terre pour être marin. Voilà. Et ça mêle aussi le quotidien avec des histoires un peu drôles, avec d'autres histoires. J'avais monté ce spectacle surtout d'ailleurs pour raconter une histoire que les gens ne connaissent pas bien, qui s'est passée à l'époque napoléonienne, mais en Norvège. Et c'est quand j'étais en Norvège, que j'étais beatnik là-bas, que j'avais entendu cette histoire qui était chantée par un jeune chanteur danois, comme on l'était tous, barbu, chevelu, là. Et j'avais trouvé la chanson bien, mais je n'avais rien compris ce qu'il disait. Et je lui avais dit, eh ben, qu'est-ce que tu racontes dans ta chanson? Et il m'a raconté l'histoire. Et en fait, c'est une chanson qui a été, une histoire vraie, qui a été récupérée par le grand dramaturge norvégien Henrik Ibsen. Je ne sais pas si vous avez entendu Ibsen, c'est assez noir ce qu'il écrit en général, mais bon, c'est très fort. Et il a versifié cette histoire, et après j'ai fouillé sur Internet pour la retrouver. Et en fait, moi j'avais entendu ça en 69, et 40 ans plus tard, j'ai eu envie de raconter l'histoire à mon tour. C'est une très très belle histoire, très dure, mais l'histoire d'une rédemption en quelque sorte. Un jour, peut-être que je reviendrai dans le pays, dans ce pays merveilleux. Mais c'est vrai qu'il faut m'attraper vraiment par les oreilles pour me faire quitter
la Bretagne.
Le Finistère, surtout. Le Finistère. Oui. J'habiterai à Rennes, ça serait un peu différent, mais je suis dans le Finistère, à l'extrême nord-ouest du monde.
Et alors, quand vous comptez, vous incluez, vous incorporez vos instruments?
Oui, parce que...
Les uns après les autres,
c'est... Oui, étant chanteur, ben, ça permet de chanter, et surtout, parce que c'est intéressant, ça fait une respiration, mais surtout, ça permet de faire chanter les gens, parce que ce sont souvent des chansons avec des refrains, et donc, là, les gens peuvent chanter en même temps, puis ça crée tout de suite un climat de confiance entre le public et celui qui est sur la scène, quoi.
Est-ce que vous avez appris à compter, c'est naturel? Vous avez été avec des grands compteurs pour vous parfaire?
Non, j'ai pas appris, c'est arrivé comme ça, parce que déjà à l'époque, c'est vrai, quand j'étais enfant, je racontais des histoires à mes sœurs et je faisais des marionnettes, et puis alors c'était surtout à l'époque de Noël, parce qu'on recevait des sachets avec des crottes de chocolat. Et donc moi je montais des spectacles, et le prix d'entrée du spectacle, c'était 2 crottes de chocolat. Et
déjà, le sens des affaires.
Plusieurs spectacles dans la journée. Le sens des affaires, ben non, en plus, non. Non, zéro de ce côté-là, zéro.
Ah,
j'ai commencé là à raconter, et puis je racontais toujours des histoires comme ça. Et surtout des chroniques, quoi. Ce que j'avais vécu, quoi. Ces chroniques que je raconte, c'est plus le regard qu'on peut porter sur le quotidien. Vous voyez, c'est comme la photo. Par exemple, vous allez faire une photo d'identité au photomaton, là, on est tous pareils. On y va, on s'assoit, on tire le rideau, on regarde, on se coiffe. Enfin, ceux qui peuvent se coiffer se coiffent. Je dis ça parce que moi, j'ai rien sur le haut de la tête. Donc, et puis, à la limite, je pouvais peigner la barbe, mais bon. Et là, on met la pièce et on se prend l'air le plus intelligent possible, quoi, le plus inspiré, quoi. Et là, à ce moment-là, bla, 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 les 4 flashs. Et puis on sort, et puis là on prend nos photos, et là on a tous l'air de parfaits crétins, parce que on a le visage écrasé, on dit mais c'est pas moi, c'est pas possible. Tout ça parce qu'on est flashé de face. Or, tout d'un coup, si on a un projecteur qui est en 3/4 douche comme ça, et tout d'un coup on a des ombres, il porte des ombres sur le visage avec la lumière, les visages tout d'un coup sont sculptés. Et tout, mais absolument tous les visages prennent une gueule formidable. Ils ont une beauté incroyable parce qu'il y a du relief. Et la vie, c'est un peu ça. C'est suivant comment on regarde sa vie, elle peut être d'une banalité effrayante, ou tout d'un coup, si on se dit, ben non, ma vie, elle est vraiment pas mal. Et si on l'éclaire, on se dit, ben oui, mais je fais ça, je peux faire ça. Et même si c'est des toutes petites choses du quotidien, ben, sa vie, tout d'un coup, se transforme, et on peut se dire qu'on a une vie extraordinaire et que finalement, on est unique au monde.
Magnifique.
Ah ouais,
c'est une belle histoire. Patrick Ewen.
Un philosophe.
Ouais. Est-ce qu'on pourrait écouter un morceau
de violon?
Vous composez aussi la musique?
Oui, je compose aussi. Des fois avec le violon, mais là, c'est plus un petit morceau. Je ne sais pas s'il est bien accordé. J'enlève une partie du casque parce que quand même... Une chanson?
Oui, pardon.
Allons-y, en breton.
Déjà, j'aime m'éprouver et nous voir armés. Y'a que ma vélocité à ma main adorée. Et merci, on te t'amène la formidie. Allez, bon, ne trague na, mais la brille de l'air.
Ça disait en quelque sorte, j'ai voyagé en Bretagne,
Dans les villes et dans les campagnes, j'ai fait tous les métiers. Et parfois même j'ai voyagé, et même parfois j'ai travaillé. Mais de tous les métiers, celui que je préfère, c'est celui de chanter. Voilà comment je suis devenu chanteur-musicien dans les années 70. Voilà, ça peut durer des heures.
Eh bien, merci pour ce petit extrait qui n'aura pas duré des heures. On n'a pas assez de temps, mais...
Non, on n'a pas trop de temps, peut-être, quand même. Et puis, bon, ça, en général, ça démarre le spectacle à la lisière des trois pays et des deux mondes. Je commence à raconter ça comme ça, voilà. Et puis après, on enchaîne sur mes aventures, voilà.
Alors, vos aventures ? Dites-nous en plus sur vos aventures.
Mes aventures, à la lisière des trois pays et des deux mondes, je raconte justement mon arrivée dans ce pays des monts d'Arrée. En 1970, on est arrivé là parce que les monts d'Arrée, c'était très désertique. Je pense que c'était un peu comme ici aussi. Il y avait une désertification des campagnes, donc on trouvait des maisons à louer, voire même à acheter pour très peu cher, finalement. Donc, on est arrivé dans les Monts d'Arrée avec mon vieux copain, Gérard Delahaye. Et moi, bon, c'est vrai, j'ai commencé à connaître le pays. Et surtout, j'ai commencé à connaître les gens qui habitaient ce pays. Et c'est vrai, je les ai aimés tout de suite. J'ai aimé cette rudesse de caractère qui était la leur ou le leur, suivant qu'on parle de la rudesse ou du caractère. Donc, mais qui cachait en fait un cœur énorme, empli d'une générosité extrême. Et j'ai commencé à les regarder vivre, et ils sont devenus en quelque sorte mes héros, les héros de mon quotidien. Et on s'aperçoit que des gens qui avaient l'air peut-être un peu comme ça, un peu rustre, un peu rude aussi, à les fréquenter, on s'est dit, mais c'est déjà absolument extraordinaire. Tout de suite, dès qu'on enlève les fougères, les rideaux et tout, on arrive chez les gens, on dit, oh, ils sont magnifiques, vraiment. Et j'ai commencé à parler d'eux. En fait, c'est un peu comme Steinbeck quand il prend Tendre Jeudi ou Rue de la Sardine. Il parle des paisanos là de Monterrey. Et puis, il raconte, c'était ses amis, ses voisins, et qui tout d'un coup, on pourrait dire, bon, c'est des pauvres gens comme ça. Mais en fait, pour Steinbeck, c'était ses chevaliers à lui, car il était très porté sur le roi Arthur et les chevaliers de la Table Ronde. Il a d'ailleurs écrit un livre là-dessus. Et donc, moi, ça a été un peu pareil, sans m'inspirer de Steinbeck forcément. Mais voilà, j'ai vu ces gens. Et j'ai un ami qui s'appelle Yvon Lemaine, qui est poète, donc qui est depuis très longtemps écrivain et poète, et qui avait écrit « Il était une fois Patrick Ewen qui regardait en souriant ses voisins, ses héros, sortir de la foule et s'avancer vers la légende. » Et je trouvais que sa phrase était magnifique, j'étais très flatté qu'il ait écrit ça, mais c'était exactement ça, parce que mes voisins, c'est vrai qu'ils sont devenus des gens de légende, et les gens qui viennent voir ce spectacle, en général, bon, des fois c'est un peu gênant, parce qu'il y en a qui le connaissent par cœur, et donc ils amènent leurs amis, puis ils racontent en même temps que moi à leur copain à côté, mais bon, en même temps, je les vois, puis je me dis, ah, ils sont encore là, ben tant mieux,
ouais.
Tant mieux. Voilà, il y a ça, et puis ici, comme je suis dans un festival quand même de contes, je vais raconter ça, une soirée, mes voisins, bon, avec des chansons, tout ça, et je raconterai aussi quelques épisodes des récits, un épisode en tout cas des récits barbares, voilà. Et j'espère avoir la chance, en plus, d'être accompagné par deux musiciens qui sont là, qui sont Rénal Fleury et Nasser. Mais Nasser, je sais pas comment.
Soltani.
Comment ?
Soltani.
Nasser Soltani. On a déjà fait le bœuf ensemble hier, justement, à Barcelonnette, c'est ça. Et donc, le contact passe tout de suite comme ça. Et là, je me dis, ah, j'ai eu envie de faire cette histoire-là qui est une chasse sacrificielle donc dans les forêts de Grande-Bretagne, on va dire 60 après Jésus-Christ, un truc très, très dur, très fort. Mais bon, à deux, là, avec ces deux-là en plus, ça peut donner quelque chose de vraiment bien. On va répéter un petit peu avant, histoire qu'ils connaissent bien le récit. Et là, je ne sais pas quel jour je pourrais faire ça, d'ailleurs. Toi, est-ce que tu as une idée, Christiane?
Je suis en train de regarder dans le...
Pour voir s'ils sont là au moins, parce que...
Le puzzle absolument infernal.
Ouais. Là, elle a de quoi faire, ouais.
Ah oui, oui, tout à fait. Ah ouais, donc, je suis en train de voir.
On n'imagine pas.
Peut-être que ça peut s'arranger. Peut-être qu'on va y arriver. Il faut que tout le monde y mette de la bonne volonté, mais à ce moment-là, on pourra y arriver.
Bon.
Patrick Ewen, c'est la première fois que vous venez aux Rencontres de la Parole à Digne, dans les Alpes-de-Haute-Provence.
Ah, à Digne, oui. Mais je suis venu, je crois, parce que j'ai des souvenirs de Manosque et Fort-Calquier. Alors, il n'y avait pas un festival avant, les Oralies.
Il y avait les Oralies.
Ah ben voilà, c'est là que je suis venu, les Oralies. Et là, justement, il y avait, comment il s'appelle, oh, ce type que j'ai adoré... on en parlait tout à l'heure, journaliste au Canard Enchaîné, qui est décédé maintenant, Yvan Audouard.
Ah, Yvan Audouard,
ah, j'ai adoré Yvan Audouard. Et les gens du sud-est comme ça, là, moi, que j'ai beaucoup aimé, il y avait Yvan Audouard, et il y avait aussi alors un très grand, c'était Jean-Claude Chabrol, Jean-Pierre Chabrol, pardon. On avait eu la chance, j'avais eu la chance de le rencontrer une fois sur l'île d'Oléron, et on avait fait, donc, moi j'étais passé l'après-midi, puis lui le soir, là, on avait longuement placoté, là, et après le spectacle, autour d'un verre, voire deux ou trois, et c'était un moment merveilleux, merveilleux. Ouais, ouais, ça, c'était des gens que j'ai beaucoup aimés, qui avaient une humanité incroyable, quoi. Et puis une grande, grande simplicité, quoi. Ça, c'était... Ça, c'est des gens... Enfin, Chabrol était plus, donc, de Lozère, de l'Ardèche, là, hein, du...
Oui, tout
comment
à fait,
on appelle
oui.
ça, son coin, c'est pas... Il appelait ça... Si, l'Ardèche. Il y a un autre nom, non, dans le coin, là. C'est l'Ardèche, de toute façon.
C'est
lui était de là.
C'est l'Ardèche.
Hein. Ouais, ouais. Et voilà. Et puis alors, Yvan Audouard, le fond vieil. Oh. Des gens merveilleux, vraiment. Voilà. Et donc, quand je lui ai recommandé, c'était quoi la question?
C'est la première fois que vous êtes.
Oui, voilà. Donc j'étais venu à
Manosque
et Fort-Calquier. Et je crois qu'à Fort-Calquier, je crois me souvenir, j'étais avec Jeanne Ferron. Jeanne Ferron qui avait raconté Macbeth. Alors Macbeth, forcément, c'était avec des, vous voyez, Moyen Âge là, tout ça, puis Shakespeare. Alors c'était voilà. Mais je me souviens de ça. Mais ça fait très longtemps. Ceci dit, je suis déjà descendu dans le plein sud, chez Christiane au festival de Nice.
Absolument, Nice. C'était
Nice,
chez moi aussi. Oui.
Ouais, ouais.
À Nice, exact.
Et il y avait Michel, Michel Faubert qui était là aussi, je crois.
Je crois bien.
Et on avait été faire un tour sur les îles en face de, je ne sais plus comment.
Les îles de l'Eras.
Ouais. Oh, aïe, aïe. Et on s'était baigné et ça m'avait épaté. Je me dis, mais c'est pas possible, une eau qui soit aussi chaude que ça, ça peut exister. On rentrait dedans. Moi, je suis habitué à rentrer dans de l'eau à 14 degrés, entre 14 et 18, là, 18, les meilleurs jours en été, quand c'est la canicule. On a eu la canicule cette année, c'était un mardi, je crois.
C'était un mardi ouais, où l'eau était la plus froide.
Voilà. Et là, tout le monde parlait à la canicule. Ici, c'était la canicule depuis un mois. Chez nous, c'était le mardi. Mais bon, on l'a eu quand même. Mais là, dans les îles de l'Érin, c'était fabuleux, un sable, une finesse incroyable. Et j'ai vu ça après, quand j'ai été en tournée en Nouvelle-Calédonie, une fois, là. Ça, c'était loin aussi, par exemple, 23 heures d'avion.
Ouais, c'est terrible, ça. Hein.
Mais ouais. Bon, tout d'un coup, quand le téléphone sonne, on dit, oui, bonjour, voilà, est-ce que vous pourriez venir chanter et raconter à Nouméa? Tout d'un coup, on est là. Nouméa, on se dit, mais c'est où déjà ça, Nouméa? En Nouvelle-Calédonie. Oh la vache, Nouvelle-Calédonie. Puis moi, j'avais la map monde devant moi. Je me dis, mais où c'est? Alors, je cherchais. Puis d'un coup, je trouve ça. Je voyais Plounéour-Ménez dans les Monts d'Arrée, en haut. et Nouméa à l'opposé directement en bas. Je me suis dit, oui, je viens, bien sûr. On n'a pas beaucoup d'argent, ça fait rien, je viens. c'était une expérience assez extraordinaire, quoi. Ah ouais, c'était magnifique. Mais alors là, pour la première fois, j'avais vu, j'étais monté à Nouméa dans l'avion avec des sandales. Et je suis resté en sandales jusqu'à Paris, donc 23 heures d'avion là. Et arrivé à Paris, tout d'un coup, j'ai vu mes pieds. Je me suis dit, mais c'est pas mes pieds. Ils m'ont changé mes pieds. Ça avait gonflé, mais épouvantable avec l'avion. C'était incroyable. La première fois que ça m'arrivait, des gros pieds comme ça. Voilà, vous savez tout de moi.
Alors la rencontre avec les conteurs, ça vous arrive souvent de vous côtoyer?
Oui, pas mal. Oui. Oh, encore, je ne fais pas partie des gens qui courent beaucoup les festivals de contes, mais à force, je commence à faire partie des vieux du conte, quoi, finalement. Donc, j'en fais quelques-uns. Puis, c'est vrai que des fois, je rencontre des gens que j'ai rencontrés un peu à droite, à gauche. Là, j'ai eu la chance d'aller assez souvent au Québec. Donc, j'ai dû aller pour jouer, je ne sais pas combien de fois, mais ça doit faire 18 fois que je vais au Québec, je pense. Donc, j'ai eu la chance d'aller à Montréal, à Trois-Pistoles, dans les cantons de l'Est, là. Et puis aussi aux îles de la Madeleine et à Québec et à Trois-Rivières. Enfin, tous ces noms qui nous font rêver. Et quand on arrive au Québec, c'est vrai, c'est... Moi, la première fois que j'ai été là-bas, j'ai eu un coup de foudre épouvantable. Je me suis dit, mais je pourrais vivre ici, moi, finalement. Puis après, je me suis dit, non, c'est en Bretagne que je ne peux pas quitter mon Finistère comme ça. Non. Mais c'est un pays tellement grand, quoi. C'est tellement vaste, il y a de la place, c'est bien. Puis les gens sont charmants, en fait, donc... On se dit que, tiens, on reste très bien. Après, j'ai entendu dire quand même que les gens qui disaient « je reste très bien », finalement, le regard des Québécois devenait un peu différent. il va nous piquer notre boulot ou quoi. Puis nous, on a la chance de rencontrer beaucoup de conteurs québécois qui viennent ici, parce que c'est le bassin de population est quand même plus important en France. On est 60 ou 70 millions, je ne sais pas combien on est maintenant, c'est pas... On est beaucoup. Et au Québec, ils sont 6 millions. Donc, c'est vrai que...
Est-ce qu'au fur et à mesure des années de compte que vous avez maintenant, vous avez un regard ou une oreille plus critique par rapport aux autres compteurs? Est-ce qu'il y en a qui, que vous ne supportez pas ou,
Oui.
Ça existe.
Je ne sais pas si c'est avoir une oreille critique, du coup. Mais c'est vrai que moi, il y en a qui m'ennuient terriblement, quoi. Pas dire qui, mais peut-être que moi je les ennuie aussi, ou souvent ce que j'entends dire, on me dit « mais c'est pas du conte ce que tu fais », je dis « peut-être bien, c'est peut-être pas du conte, mais c'est pas grave, les gens écoutent, donc ce que je peux dire en revanche, c'est que là on est une équipe, là, et tout de suite on s'est retrouvés le premier soir, c'était tout de suite...
Ça a fonctionné, l'alchimie.
L'alchimie était là, c'était parfait, et puis ça continue, et je pense que ça va continuer jusqu'au bout. C'est une chance, parce que tout d'un coup, on pourrait se trouver avec des gens...
En compétition, un peu, peut-être.
Moi, j'ai jamais eu l'esprit de compétition.
Non, mais ça nous est arrivé une fois, aux Rencontres de la Parole, deux conteuses qui étaient en rivalité... Et je dois dire que ça a un petit peu plombé l'ambiance.
Ah ouais, j'imagine ça.
Mais ça a été rarissime. En 10 ans, c'est le seul petit pincement au cœur que je pourrais avoir.
Ah ouais, parce que moi, les gens que j'ai rencontrés en général, c'était toujours un vrai bonheur. Puis là, j'étais content, là, parce qu'on vient pour une semaine. Moi, c'est rare. Rarissime que je quitte pour une semaine. Bon, quand j'ai été en Nouvelle-Calédonie... ça fait 15 jours quand même. Et là, une semaine, en même temps, on se dit, c'est sympa quand même, c'est un truc... On est curieux, en même temps, on est très curieux de ça, de voir. Et puis, quand même, moi, je ne me souvenais plus que le pays était comme ça. C'est marrant, je voyais un truc plat.
Ah, pas tout à fait.
Aix-en-Provence, c'est plat. Voilà, et donc, je voyais quelque chose, et plus on avançait ici, je me disais, Oh la vache, ah non, ils ont ça ici. Là, j'étais jaloux un peu, je dois dire. Là, j'étais d'accord. Un petit peu jaloux parce que nous, nos montagnes dont on parle, là, nous, on les regarde droit dans les yeux, c'est-à-dire de face, quoi. Alors qu'ici, on est obligé de lever la tête pour voir le haut de la montagne. Mais c'est un pays absolument merveilleux. Puis je me disais, il y a sûrement qu'il y a des loups par ici.
Et oui, justement, c'est le problème des bergers.
Ah ouais, je comprends ça. C'est la grosse polémique. Je comprends ça que ça peut être un problème pour eux. Parce que celui qui a ses brebis, là, et le loup qui arrive, ben, c'est facile pour lui. Hein. C'est plus facile que de chasser un chevreuil ou un cerf. Où on dit les loups se nourrissent de souris, tout ça, ben un peu sûrement, mais là, quand on a tout à portée de main, puis là, ils se reproduisent, et je comprends que les bergers, des fois, leur mettent un coup de fusil. Hein, c'est du point de vue écologique qu'on trouve ça pas bien et tout, mais ces bergers-là, je me dis, ben oui. Moi, j'imagine, j'ai une histoire comme ça qui s'est passée en Bretagne, à l'époque, c'était l'hiver 73-74, qui avait été très rude. Et mais je ne vais pas la raconter maintenant, parce que c'est trop loin. Mais on a eu un loup comme ça, on n'en a pas parlé, ou on l'a oublié. Mais on a eu une louve là, qui était là, et puis qui a un peu attaqué des troupeaux, là, puisque c'est quand même plus facile. Hein. Et donc, c'est une histoire terrible, très triste et abominable. Mais bon, du point de vue de la louve, j'entends. Mais voilà, c'est... On n'a plus ça en tête. Et c'est marrant parce qu'en Espagne, par exemple, le loup, il fait partie de... Le loup fait partie de la vie du quotidien, quoi. Moi, j'avais vu un documentaire sur les loups en Espagne. Alors, les Espagnols, on leur disait, mais vous avez des loups, là ? Ah ouais, on a des loups, là-bas. Oh, comme s'il y avait une bande de chiens ou je sais pas quoi. Mais nous, ici, en France, le loup, ouf. Puis ça, pareil, en Roumanie, la présence du loup, il est là, quoi. Les ours, pareil. Alors là, c'est pareil, quand je vois l'ours dans les Pyrénées, là, je me dis, non, là, il y a un truc qui ne va pas réintroduire les ours dans les Pyrénées quand il n'y en a plus. C'est pas la peine, quoi. Moi, je trouve Bon, les écologistes vont me tomber dessus. Hein. Mais pas tous. Je pense que certains ont quand même une idée comme ça. Un ours, moi, je sais pas, mais au Québec, il y a des ours comme ça, mais ils sont là depuis tout le temps. Mais on voit, il y a des gens qui ont été attaqués parce qu'ils se trouvaient sur le chemin ou quelque chose. Puis un ours avec les griffes, là... On a fini ?
Oui, on va revenir à... Merci Patrick Ewen pour toutes ces belles histoires. Christiane Belleuil, comment vous avez eu envie d'inviter Patrick Ewen, puisque c'est la première fois donc qu'il vient pour les rencontres. Qu'est-ce qui vous a séduit chez ce conteur, musicien, chanteur ?
Alors effectivement, Patrick est venu pour la première fois dans les rencontres de la parole. Mais je l'avais invité dans le Festival du Conte dans les Alpes-Maritimes.
D'accord.
Donc, Patrick Ewen, je...
Vous le connaissiez, donc.
Quand même. Et puis, je crois que je vous l'ai déjà dit, pour moi, ces rencontres de la parole sont des rencontres, justement. Non pas des programmations, mais des rencontres. Alors, effectivement, il faut que l'alchimie fonctionne. Et je vous ai dit qu'une fois, je me suis trompée. Mais en règle générale, ce que j'essaie de faire, c'est de panacher des univers et non pas de rentrer dans des thématiques. Voilà, donc Patrick Ewen est pour moi un des grands, un des très grands. Ah,
ça fait du bien.
Attention,
chevilles.
Attention, les chevilles. Parce que justement, il fait partie de ces grands humanistes, je dirais, des gens qui ont la conscience et la connaissance de l'autre avec... un petit regard sur ce qu'il appelle ses vies antérieures et qui sont simplement le passé, notre passé commun. Et il nous inscrit aussi dans l'avenir. Donc ça fait partie des grandes rencontres et des belles rencontres. C'est vrai que de les avoir vus avant-hier, déjà à la rencontre au gîte et puis hier soir, je veux dire, moi je suis profondément heureuse et bouleversée de ces rencontres.
Il y a beaucoup d'émotions chaque année. Hein ?
Il y a beaucoup d'émotions chaque année, tout à fait.
Et Patrick Ewen, donc, quand vous comptez, quel est le meilleur moment pour vous et est-ce que ça dépend des publics ? Est-ce que vous avez un public préféré ?
Non, parce qu'en fait, comme je disais, c'est pas si courant que ça que je vienne dans des festivals de contes. Mm-hmm. Moi, les gens qui me font venir comme ça sont souvent des comités des fêtes, des amicales laïques, associations de parents d'élèves. Puis ces gens-là, bon, me connaissent, ils savent ce que je fais, donc ils se disent, pour le public qu'on a, ça va marcher. Et d'un autre côté, c'est des gens qui comptent. J'entends C-O-M-P-T-E.
D'accord.
Ils se disent, lui, on le fait venir. Si l'association est dynamique, ils se disent, on peut faire 150 personnes qui demandent tant. On peut faire du bénéfice. Sûr, on ne perdra pas d'argent. Et on va peut-être même faire du bénéfice. Mais je trouve que c'est bien parce que là, tout d'un coup, on est au même niveau. Quoi, chacun. Et donc... c'est sain, moi je trouve ça très sain. Bon, là c'est différent.
Ah, mais là c'est différent.
Là il faut se casser la tête pour faire des dossiers, puis ça c'est quelque chose pour avoir 3-4 sous maintenant. Et c'est vrai que c'est dur, moi job, moi son job à Christiane, là, moi, pour rien au monde je voudrais faire ça.
Ah, ben non, moi je suis.
Aïe, aïe, aïe.
Je suis conservateur de bibliothèque, je ne suis pas programmateur.
Non.
Mais en même temps, nous, par volonté lecture publique, je dirais. Cette manifestation est complètement gratuite pour les habitants.
En plus.
Pour tout le monde, elle est complètement gratuite.
Ah, ça, c'est
et
malaise.
De surcroît, les communes sont aidées pour l'accueil. Donc, je veux dire, c'est vraiment quelque chose qui est simplement faire la démonstration que les bibliothèques sont des lieux de vie, des lieux de partage et de rencontre.
Ah, ça,
on va
bien.
Dans les communes où il y a une bibliothèque ou une ambition à en faire une. Et puis c'est tout. Ça repose... Notre correspondant dans la commune, c'est la commune, bien évidemment, hein, la mairie, puisque la bibliothèque municipale dépend de la mairie, même si elle est parfois animée par une équipe de bénévoles. Voilà, donc c'est vraiment, c'est une volonté que le département des Alpes-de-Haute-Provence, dans lequel le département s'engage. Quoi,
ben voilà. Ça, c'est beau, hein, ça, c'est beau, parce que c'est vrai qu'à l'époque actuelle, on va dire, les cordons de la bourse... se sont singulièrement resserrés.
Et les bourses sont devenues toutes petites.
Absolument. Mais bon, d'arriver à faire quelque chose comme ça, c'est magnifique, quoi. Vraiment, je trouve.
Alors hier, vous avez donc... C'était l'ouverture, le premier spectacle à Barcelonnette. Il y a eu du monde.
Il y a eu du monde, oui, oui. Malgré la concurrence de vélos acrobates. Et il y avait autre chose. Il y avait le cirque. Et puis, je ne sais plus quoi... Mais bon, il y a eu du monde, et puis un public conquis, et puis un beau public, un bon public, hein, qui a bien accroché à cette histoire parfaitement déjantée, absolument extraordinaire, de qu'Alain Lamontagne a bien voulu nous conter. Voilà, et en ouverture, il y a quand même eu ce trio Patrick, Nasser et Rénal qui ont fait danser les jeunes et les moins jeunes sur leur siège.
Voilà. On va peut-être venir à quand on peut et quand et où on peut voir Patrick et Wen en direct compter, dans quel village et quel jour.
Alors, demain, vendredi, Patrick sera à Prats. Il sera accompagné sûrement par Rénal Fleury. Voilà. Peut-être par deux, mais sûrement par Rénal Fleury. Et ensuite, on le retrouve à Limans, mardi 25 août.
À 21h, les deux soirs.
À 21h, les deux. Et puis, bien évidemment, la clôture à la Robine-sur-Galabre, où là, conteurs et musiciens seront tous réunis sur scène pour un spectacle qu'on appelle « Création éphémère », dans lequel tous participent. Et puis hors tout spectacle, n'oubliez pas la Robine-sur-Galabre avec le pique-nique annuel.
Dimanche.
Dimanche, qui réunit...
Le monde peut venir avec son pique-nique de midi.
Et éventuellement son instrument de musique. Et
oui.
Et ses contes, s'il en a aussi. Ça sera animé par nos amis de Guyane, Claude Delsol et Sandra. Voilà.
Eh bien, merci. Et puis eh ben, demain, on recevra encore...
Demain, c'est Halima qui viendra.
Une femme, voilà. Halima Hamdan. Née au Maroc, on fera sa connaissance donc demain à 17h sur Fréquence Mistral. Bonne soirée, merci. Et peut-être on termine avec un petit...
Un peu de violon.
Un petit peu de violon ou un petit bout de conte ou les deux.
Thank you.
Patrick Ewen, merci.
Si vous allez regarder, par exemple, dans votre dictionnaire, à la lettre G, et vous irez regarder, après les lettres en latin, là, les pages roses, Gourcuff Joseph. Vous verrez, Gourcuff Joseph, éminent zoologue français, et ce n'est que vérité, né à Plouny-Hourmenez en 1857, mort à Paris en 1938. Joseph Gourcuff est connu pour parce qu'il faisait partie, il travaillait pour le musée de d'histoire naturelle à Paris. Et le musée d'histoire naturelle voulait donc posséder une petite bête dont ils avaient entendu parler, mais que personne ne possédait parce qu'elle était assez difficile à trouver. C'est une petite bête qu'on trouve en Afrique, qui a un nom africain d'ailleurs assez dur à prononcer. Ça s'écrit N'GUEU. Et ça se prononce comme ça. Et donc, il avait accepté ce pari d'aller en Afrique et de ramener cette petite bête. Et donc, il était parti là-bas, à Dakar, pour préparer son expédition. Et Joseph Gourcuff avait un petit problème, c'est que, enfin, si c'en est un, disons que quand son moral diminuait, il fallait qu'il prenne quelque chose pour se remonter. Ce quelque chose, c'était ce qu'on appelle en Bretagne du chouchen. Le chouchen, c'est un peu comme l'hydromel, mais c'est du cidre avec du miel fermenté, ça se boit comme du petit lait, le résultat n'est pas tout à fait le même. Mais bon, il avait donc prévu d'amener avec lui une caisse de 12 bouteilles de chouchen, et le voilà parti en Afrique, il monte son expédition, et voilà toute l'expédition qui se met en route vers sur la terre d'Afrique. Alors on imagine tous ces porteurs, des noirs très costauds, comme on les voit par exemple dans les mines du roi Salomon de Stuart, avec Stuart Granger. Là. Et donc tout ce monde-là marche en chantant des chants tribaux, vous voyez, du style « Ah, bah oui, un noir tribal, mais un maquette minor, mais un monde à disclérien, un l'autre de ce major, un monde à disclérien, un d'une de ma but. » Oui, je sais, ouais, c'est du breton, mais c'est parce que c'est les missionnaires bretons qui avaient enseigné des chants tribaux bretons aux Noirs d'Afrique, hein, puisqu'on a beaucoup été là-bas, nous autres les Bretons. Et donc tout ce monde-là avance dans la savane, et puis les journées passent, les semaines passent, et les mois passent, et toujours pas de à l'horizon. Et Joseph Gourcuff commençait à sentir son moral qui descendait, et très sérieusement. Et un jour qu'il était là, en face de cette terre, de cette savane africaine écrasée de soleil, il se disait, mais ça y est, je vais faillir à ma mission, je vais pas trouver ces petites bestioles. Quand tout à coup, dans le silence de cet après-midi africain, voilà qu'il entend « Alors il dit, mais c'est pas possible, j'ai rêvé. Il écoute encore un peu. Alors là, il appelle le chef de la caravane. Fetnat, viens pas ici. Le chef de la caravane s'appelait Fetnat parce qu'il était né un 14 juillet. Et donc, on avait regardé le nom sur le calendrier des postes et c'était marqué Fetnat. Donc, on l'avait appelé Fetnat. Fetnat se rapproche et dit, voilà, misier, écoutez, j'ai très bien entendu. Il y a des culs par là-bas. Et il dit, bon, tous les autres restaient derrière et nous, on s'avance. Alors, ils s'avancent tous les deux comme ça. Ils écartent les hautes herbes. À un moment, ils s'arrêtent. Ils entendent encore ça, ils se disent, on n'est pas loin, on n'est pas loin. Et là, à un moment, ils écartent les hautes herbes sèches. Et là, devant leurs yeux émerveillés, toute une colonie de qui était là, en train de courir partout. Et Jos, qui quelque temps avant pensait qu'il allait faillir à sa mission, avait débouché sa bouteille de chouchen, en avait bu une rasade. Quand il voit ça, il dit « Merci Seigneur !» Et là, il lance sa bouteille en l'air, et la bouteille retombe sur le sol, mais ne se casse pas. Et là, eh bien, tout le précieux liquide ambré coule sur la terre d'Afrique, et toutes les petites bêtes qui étaient là commencent à sentir ça, et se précipitent, et commencent à boire le précieux liquide. Avidement, la terre d'Afrique elle-même très sèche, buvait également le liquide, et naturellement, au bout d'un moment, tout était sec. Mais comme la bouteille était allongée sur le sol et qu'elle n'était pas cassée, il en restait à l'intérieur, et toutes les petites bêtes ont commencé à grimper dans la bouteille. Et là, Joseph Gourcuff a eu la présence d'esprit d'attraper la bouteille et de la boucher. Voilà pourquoi, en Bretagne, désormais, chaque fois que l'on ouvre une bouteille de chouchen et que l'on verse dans le verre, on entend... Et voilà.
Merci beaucoup, Patrick Lewen. Et vous êtes formidable pour le timing. Ah. C'est tout juste le moment de se quitter, de se dire à demain, Christiane Belleuil, avec une autre conteuse.
Avec Halima.
Halima Hamdan. Ce sera de 17h à 18h également. Bonne soirée. Merci d'être venu. On retrouvera donc ces émissions podcastées sur le site. Et puis, on se dit à très bientôt. Dimanche, pour tout public, pour le pique-nique à la Robine sur Galabre, au château, où chacun amène de quoi pique-niquer.
Et partager
les mots et la musique et un petit coup à boire aussi.
Ah bon, oui, voilà. Quand même.
Bonne soirée, merci et à demain.
Merci, au revoir. Odile, au revoir.